Dans un message à l'occasion du 70e anniversaire de l'Organisation internationale pour les migrations le 29 novembre, le pape François invite à un examen de conscience collectif. Comment peut-on exploiter la souffrance et le désespoir pour faire avancer ou défendre des agendas politiques? Comment les considérations politiques peuvent-elles prévaloir lorsque la dignité de la personne humaine est en jeu? Le débat sur la migration ne concerne pas vraiment les migrants, souligne le pape François. Et il poursuit, il ne s'agit pas seulement des migrants, il s'agit plutôt de nous tous, du passé, du présent et de l'avenir de nos sociétés. Nous ne devons pas être surpris par le nombre de migrants, mais les rencontrer tous en tant que personnes, en voyant leurs visages, en écoutant leurs histoires, en essayant de répondre au mieux à leur situation personnelle et familiale unique. Cette réponse exige beaucoup de sensibilité humaine, de justice et de fraternité. C'est dans cet esprit que nous donnons la parole à Lynn Targe, présidente de l'association El Cartachouna Laroun de Saint-Jean-de-Luz. Nous écouterons aussi le témoignage de l'abbé Jean-Marc Lavigne, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Abidassois à Handaï, qui a participé le 22 novembre dernier à l'hommage rendu à un Ivoirien retrouvé mort dans les eaux de l'Abidassois. Lynn Targe, bonjour. Lynn Targe, vous êtes la présidente d'El Cartachouna Laroun. Quels sont les objectifs de cette association ?
El Cartachouna Laroun, déjà ça veut dire en français solidarité autour de la rune. Cette association a été créée en 2018 lors des arrivées massives, en même temps qu'a été créé le centre d'accueil de Paocha et d'autres associations au Pays Basque. On est à peu près 12 associations du même type. Notre association, elle a trois objectifs. Sensibiliser et les habitants autour de nous. Aider dans la proximité des gens qui sont installés ici, dans ce petit bout de territoire, et aider aussi les personnes qui, une fois qu'elles ont traversé et qu'elles sont sur Handaï, Urugne, Cibourg ou Saint-Jean, les accompagner le mieux possible jusqu'au centre d'accueil de Paocha. Voilà.
Alors, quelles sont les personnes que vous aidez, quelles sont les personnes que vous côtoyez qui essaient de passer cette frontière ?
Passer cette frontière, dans une grande majorité, sont des personnes qui arrivent d'Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, beaucoup de Guinée, tous ces pays-là. Et puis, depuis quelques mois, à nouveau, beaucoup de jeunes Algériens et de Marocains. Je dis jeunes parce qu'ils sont... pour moi, ce sont tous que des jeunes, qu'ils soient mineurs ou jeunes majeurs, ce sont quand même des personnes très jeunes. Et beaucoup de femmes, de jeunes femmes et de femmes avec enfants, depuis quelque temps. Et ce sont des personnes qui ont quitté leur pays parce que c'était devenu invivable.
Alors Lynn Targe, vous l'avez dit, donc vous essayez d'aider ces personnes. Alors comment vous vous y prenez ? Et bien sûr, je pense qu'il y a les limites de la loi sur l'immigration qui ne vous permettent pas de faire tout ce que vous souhaiteriez faire pour les aider.
Il existe une loi que l'on n'enfreint pas, qui consiste à aider les gens à passer la frontière. Personne dans nos groupes n'essaie d'aider les personnes à passer la frontière. Ce que nous faisons, c'est lorsque nous rencontrons sur la route des personnes qui peuvent se mettre en danger parce qu'elles veulent atteindre leur but et le but pour se reposer, c'est d'arriver jusqu'à Bayonne et c'est quelque chose que nous avons absolument le droit de faire, nous les prenons dans nos voitures et nous les amenons jusqu'à Bayonne. C'est ça que nous faisons pour ces personnes-là. Et rien ne nous en empêche. L'aide aux personnes sur nos routes françaises, ça n'est absolument pas un délit. De la même manière que l'on prend n'importe quel autre autostoppeur. Et je pense qu'on a un devoir moral, quand on voit quelqu'un qui peut se mettre en danger, d'essayer de l'aider à atteindre son but.
Dans la loi française est entré le principe de fraternité qui remplace le délit de solidarité, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Grâce au combat de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cédric Héroux, qui est quelqu'un qui s'occupe de personnes à la frontière italienne. Dans la loi a été inscrit ce que l'on appelle le principe de fraternité. C'est-à-dire que quand on est sur le sol français, on peut aider une personne sans contrepartie financière ou autre, pour des raisons humanitaires. Pour les gens qui habitent ici au Pays Basque, prendre une personne dans sa voiture, l'amener chez soi, lui donner à manger, lui permettre de prendre une douche, de se reposer une heure, une nuit, deux jours, c'est légal. On a le droit, grâce à ce principe de fraternité, c'est aider pour des raisons humanitaires, sans contrepartie financière ou autre. La seule chose que l'on n'a pas le droit de faire, c'est d'aller en Espagne et de faire traverser la frontière à quelqu'un. Ça, ne le faites pas, c'est interdit par la loi et vous pouvez être accusé d'être un passeur. Mais sur le sol français, pour des raisons humanitaires, vous pouvez vraiment aider toutes les personnes que vous rencontrez.
Est-ce que vous êtes confronté aux passeurs ? Est-ce que vous en voyez ? Est-ce que vous voyez des personnes qui profitent de la situation pour se faire de l'argent sur le dos de ces migrants qui essaient de passer la frontière ?
Non, on n'en connaît pas, parce que je pense que si j'en connaissais, je ne sais pas si je garderai mon calme. Non, les passeurs, on ne les connaît pas. On sait qu'ils existent. Pourquoi ? Parce que ça nous arrive de rencontrer des gens sur le bord de la route qui ont été laissés à des endroits, on va dire entre Andaille et Saint-Jean-de-Luz, et à qui on fait croire qu'ils sont arrivés à Bayonne. Voilà. Où les passeurs les laissent à des arrêts de bus, dans des endroits, en leur disant « mais voilà, vous êtes arrivés », alors que c'est faux. Voilà. Mais on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Moi, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais rencontré de passeur.
Le lundi 22 novembre, il y a eu un millier de manifestants pour rendre hommage à un Ivoirien qui est décédé, qui s'est noyé donc, dans la Bie d'Assois, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, je crois que c'est le 7e migrant décédé cette année.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'ambiance de cette soirée à Andaille pour rendre hommage à ce migrant et quel est un peu l'état d'esprit des personnes de votre association, d'El Cartachuna Larun, quand il y a des personnes qui décèdent pour traverser la frontière ?
Bah, chaque fois, on est absolument révoltés. 7 en 7 mois, je pense que c'est un chiffre qui est parlant. On s'est retrouvés sur le pont. Beaucoup de gens sont venus du côté espagnol et on était aussi très nombreux, des citoyens lambda et puis des associations. Notre association fait partie de ce que l'on appelle Etorkinekin, qui était autrefois un collectif et qui est maintenant une fédération. Il y a aussi un groupe équivalent au nôtre qui s'est créé récemment sur Andaille. Bah, toutes les personnes qui sont sympathisantes de cette cause étaient là. Et ce que l'on dit, c'est ça suffit. Ce contrôle et cette fermeture de la frontière, ça rime à rien. Exactement comme on le voit encore plus récemment avec les 27 personnes qui sont décédées à Calais, on ne les empêchera pas de passer. Ils n'ont pas fait tous les parcours qu'ils ont fait pour s'arrêter là. Donc, tout ce que l'on fait en bloquant cette frontière, c'est leur faire prendre des risques complètement inutiles. Alors, la Bie d'Assois, pourquoi ? Ben parce qu'ils peuvent être passés une fois, parce que le temps s'y prêtait, et être contrôlé une fois arrivé en France, remis de l'autre côté de la frontière, puisqu'on a quand même des personnes qui nous témoignent être passées 6, 8, 10 fois être renvoyées de l'autre côté de la frontière. Et puis, ils vont repasser, sauf que la deuxième fois quand ils vont repasser, les conditions météo de la Bie d'Assois qui est très capricieuse font qu'ils vont se noyer. Donc c'est contre ça qu'on manifeste. Cette fermeture de frontières, c'est la cause de tous ces morts. Et après, en ce qui concerne le train parce que beaucoup de gens s'interrogent de se dire mais enfin pourquoi marcher le long des voies? Eh bien s'ils marchent le long des voies, c'est parce qu'ils ont peur sur la route, parce qu'ils savent très bien que ils peuvent être contrôlés à n'importe quel moment et être renvoyés à nouveau de l'autre côté. Donc ils marchent sur les voies. Et ce qu'il faut savoir, ce que l'on a appris, c'est que aujourd'hui les trains sont beaucoup moins bruyants qu'avant. Les trains, quand ils arrivent, on les entend pas. On va avoir fatalement d'autres accidents avec des gens qui vont marcher sur l'autoroute. Ça se fait déjà. Des gens qui vont rentrer clandestinement dans des camions. Ils vont se mettre dans des situations très très dangereuses. Parce que souvent, en plus, ils ont quelqu'un qui les attend côté français.
Donc vous réclamez la sécurisation du transit des migrants à la frontière franco-espagnole.
On réclame l'ouverture de cette frontière. Il faut laisser les gens circuler en Europe. Il faut absolument revoir ce que l'on appelle les accords de Dublin, qui leur interdit de venir faire une demande de réfugié en France s'ils sont arrivés en Espagne. Parce que ces accords de Dublin sont vraiment antiproductifs. Et après, pour ceux qui sont arrivés en France aujourd'hui sans nos aides, parce qu'on ne peut pas leur apporter, c'est interdit et on ne le fait pas. On dit, il y a un centre d'accueil à Paucha, laissons-les aller jusqu'au centre d'accueil de Paucha. Ils ne vont pas se télétransporter de la frontière à Paucha. C'est aberrant. On a un centre d'accueil. Et ils ne peuvent pas y aller. Voilà, ce que l'on veut, c'est leur permettre d'aller à Paucha et étudier les situations et prendre en compte l'aspect humanitaire de toutes ces demandes d'aide qui nous sont faites ici à l'Europe. Et quand je dis toutes ces demandes, quand on regarde les chiffres, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Hein. Pour des raisons politiques, aujourd'hui, on essaie de faire croire aux Français que... un nombre énorme de gens sont en train de venir en France, c'est faux, c'est faux. Il y en a très peu par rapport à tous les mouvements de migration dans le monde.
Le président du gouvernement basque, Iñigo Urkullu, et le président de l'agglomération Pays Basque, Jean-René Tchégaray, ont signé un texte commun ce 29 novembre. Ils appellent donc à sécuriser le passage des migrants en transit. Comment vous recevez cet appel, ce texte des deux présidents de la communauté autonome basque et de l'agglomération Pays Basque ?
Avec espoir et soulagement, parce qu'on pense que un petit pas a été à nouveau franchi, puisque nous, ça fait quand même longtemps qu'on le demande. L'espoir qu'il peut se faire quelque chose, parce que comme on vit quand même dans des démocraties, si le peuple veut quelque chose, espérons que les gouvernants l'entendront. Et j'espère que derrière ces deux personnages publics qui nous représentent, c'est tous les citoyens et tous les habitants de cette région qui vont se mobiliser, qui vont être derrière eux et qui vont dire qu'on ne veut pas de cette répression, on ne veut pas de cette chasse à l'homme, on ne veut pas de ce harcèlement. Des personnes qui sont autour de nous, je crois, les plus vulnérables.
Line Targe, vous avez bien conscience que tout le monde n'est pas sur cette ligne, qu'il y a des citoyens qui ne sont pas prêts à accueillir des étrangers, des migrants.
Oui, c'est leur droit. Maintenant, on leur dit qu'il y en a beaucoup. C'est pas vrai, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que quand on les accueille et quand on leur permet de s'intégrer, et notamment l'intégration passant par le travail, si on leur permettait de travailler, ces personnes s'apercevraient que pour nous, Français, vieillissants, c'est une chance toute cette jeunesse qui peut venir et qui peut pourvoir des emplois qui ne sont pas pourvus actuellement. Un manifeste est en train de circuler qui dit « Mon pays s'appelle Solidarité » et j'espère que c'est cette voix-là qui sera entendue parce qu'on a tous besoin les uns des autres.
Line Targe, je crois que vous souhaitez adresser un merci particulier.
On remercie beaucoup la communauté catholique qui répond présent de manière absolument formidable ici. Il y a eu plein de moments qui ont été pour nous très émouvants dans l'aide qu'on a pu obtenir, que ça soit dans l'environnement scolaire, que ça soit dans les dons, que ça soit dans les hébergements. C'est bien.
Un grand merci, Lynn Targe, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association El Cartachuna Lagoon. Si des personnes souhaitent vous rejoindre, comment faut-il faire?
On a un mail, elcartachunalagoon@gmail.com, et on a une adresse postale qui est au centre Sagardian à Saint-Jean-de-Luz.
Merci beaucoup, Lynn Targe. Merci à vous.
Merci.
Justement, nous avons un représentant de la communauté catholique, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Bidasso à Andaï, l'abbé Jean-Marc Lavigne. Bonjour.
Bonjour, Alexandre.
Vous aussi, vous étiez le 22 novembre dernier au rassemblement en hommage à cet Ivoirien qui est décédé dans la Bidasso. Alors, tout simplement, pourquoi avoir participé à ce rassemblement et quel était votre état d'esprit?
Je ne pouvais pas ne pas y être. Parce que c'est comme le 7e décès de migrants qui veut passer de façon normalement humaine de l'Espagne à chez nous. Et voilà, encore un autre qui décède, et donc ça fait beaucoup. Et donc à l'appel des organisations et associations et des amis aussi chrétiens et autres hein, qui étaient concernés, je suis donc parti sur le pont international Santiago de Tanday pour une chaîne humaine au flambeau, et donc c'était un moment de solidarité important avec eux, avec tous les migrants qui ont du mal à passer aujourd'hui du côté français. Pour moi, c'est l'évangile aussi, hein. J'étais un étranger, on m'avait accueilli, donc c'est essentiel. Et aussi, bien avant, dans l'Ancien Testament, il y a toujours le respect de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Et donc aussi, l'Église a toujours aussi été sensible, hein, avec tous ses papes et sa doctrine sociale à l'accueil de l'étranger. Et donc, il me semble important que je sois présent dans des moments comme celui-là. C'est aussi ma foi et mon humanité qui me demande d'y être de façon tout à fait naturelle et au milieu de gens qui sont croyants, mais aussi beaucoup d'incroyants. C'est aussi un témoignage, je crois, de l'Église présente à ce moment-là. J'espère aussi que les politiques hein, anti-migratoires et de non-accueil des étrangers et des migrants vont changer un jour en France, parce que vraiment, il y a un problème de manque de dignité, de solidarité. Il faut vraiment que ces choses-là changent. Il y va, je crois, du rendez-vous de l'humanité avec ces populations. Donc, c'est important que ça avance.
Merci beaucoup, abbé Jean-Marc Lavigne, pour votre témoignage. Et je termine en citant le pape François, puisqu'il a diffusé plusieurs tweets sur ce sujet le 28 novembre. Combien de migrants sont exposés, même de nos jours, à des dangers très graves et combien perdent la vie à nos frontières? Je ressens de la tristesse quand je pense à ceux qui sont morts dans la Manche, à ceux de la frontière avec le Bélarus, dont beaucoup sont des enfants, à ceux qui se noient dans la Méditerranée, à ceux qui sont rapatriés en Afrique du Nord et transformés en esclaves. Je remercie tous ceux qui s'engagent à soulager leurs souffrances. Pensons aux migrants, à leurs souffrances et prions ensemble. Voilà, c'était donc un tweet du pape François.